Il est 18h. Et c'est l'heure du journal présenté par Aurélie Kiefer. Bonsoir Aurélie.
Bonsoir Hervé, bonsoir à tous. Le ton ferme d'Emmanuel Macron en Corse avant sa rencontre avec Gilles Simeoni et Jean-Guy Talamoni. Le chef de l'État évoque un avenir dans le giron républicain et prévient qu'il n'y aura pas d'amnistie. La Fédération nationale du bois demande son aide au gouvernement pour freiner l'exportation de chênes bruts. La filière est menacée, d'après la FNB. 30 scieries de chênes ferment leurs portes chaque année. Grave crise politique aux Maldives. Après l'arrestation du président de la Cour suprême, l'opposition demande à l'Inde d'intervenir pour faire libérer les prisonniers politiques. Les marchés boursiers perturbés, après plusieurs mois de hausse quasi ininterrompue, ils ont fait l'objet d'une forte correction et la bourse américaine reste fébrile. Ils doivent rencontrer le chef de l'État ce soir et l'attendent de pied ferme. Les dirigeants nationalistes Gilles Simeoni et Jean-Guy Talamoni, forts de leur large victoire aux élections territoriales de décembre, appellent le président de la République à saisir cette occasion historique de dialogue. Emmanuel Macron doit préciser sa position demain à Bastia, mais à son arrivée sur l'île de Beauté ce matin, le ton était grave et ferme. Bonsoir Ludovic Piétenu.
Bonsoir Aurélie.
Emmanuel Macron est arrivé en compagnie de la veuve et des enfants du préfet Claude Erignac, assassiné le 6 février 1998.
Et c'est avec parfois la gorge serrée que Dominique Erignac lit son discours, court, ferme, républicain, et qui ne pardonne pas.
Venir ici, montrer que la République existe est un acte fort. Réaffirmer les valeurs de la République ici l'est encore plus. C'est surtout une manière de dire que la République n'oublie pas, que la République n'oubliera jamais ce qui s'est passé il y a 20 ans. Contrairement à ce que l'on peut entendre ou lire, c'est également attester que la page n'est pas tournée. Comment pourrait-elle l'être d'ailleurs, alors qu'elle est tachée de sang ?
Dominique Erignac et ses deux enfants n'étaient jamais revenus sur les lieux de cet assassinat depuis 20 ans. Emmanuel Macron prend la parole et avec la même dureté condamne ceux qu'il appelle des apôtres du crime, les artisans du désordre et de la confusion.
En inaugurant cette place Claude Erignac au cœur d'Ajaccio, nous scellons notre union indéfectible dans la République. Le nom de Claude Erignac apposé ici est cet olivier. Symboles de concorde, sont un appel à la raison et le ferment d'un dialogue renouvelé, refondé, assaini. La République doit conserver cette ambition de ménager à la Corse un avenir qui soit à la hauteur de ses espérances, sans transiger avec les requêtes qui la feraient sortir du giron républicain. Je suis ici pour rompre avec ces faux-semblants et reprendre le chemin de la franchise, de la responsabilité et de la construction de l'avenir, sans non-dit. Et sans détour.
À peine arrivé sur l'île, Emmanuel Macron n'aura pas mis beaucoup de temps avant de doucher quelques espoirs de la nouvelle majorité nationaliste, principalement sur la question de l'amnistie. S'il n'a pas fermé la porte pour l'heure à toutes les revendications, c'est un début de visite sans transiger, de quoi redouter une rencontre, disons, tendue ce soir avec les deux présidents corses. Et dans la courte expression qu'il a eue il y a quelques minutes à peine dans la rue face à la mairie d'Ajaccio, il a mis en avant d'autres préoccupations que celles institutionnelles, plutôt le chômage, l'économie, le social, l'environnement.
Ludovic Piétenu avec Fabien Gosset à la technique et puis le déplacement présidentiel en Corse, c'est le thème du grain à moudre ce soir. Salah Abdeslam ne reviendra pas à son procès jeudi. Le seul membre survivant des commandos du 13 novembre est jugé à Bruxelles pour une fusillade lors de sa cavale. À l'ouverture du procès hier, il a pris la parole, mais essentiellement pour dire qu'il ne répondrait pas aux questions. La défense plaidera donc jeudi en son absence. Salah Abdeslam encourt 20 ans de prison pour tentative d'assassinat sur des policiers et port d'armes prohibées dans un contexte terroriste. Le procès dit du logeur de djihadistes touche à sa fin. Le procureur a prononcé cet après-midi ses réquisitions avant de laisser la place aux plaidoiries de la défense contre Jawad Ben Daoud et Mohamed Souma, jugés pour recel de malfaiteurs terroristes. Il a requis 4 ans de prison. Ça n'est pas la peine maximale prévue par le code pénal. En revanche, il a requis 5 ans d'emprisonnement avec mandat de dépôt contre le troisième prévenu, Youssef Haït Boulhassen, soit le maximum prévu pour non-dénonciation de crimes terroristes. Le compte-rendu d'audience de Florence Turme.
D'emblée, le procureur indique qu'il n'ira pas sur le même terrain que la partie civile et sa demande de requalifier les faits en actes de terrorisme. Un dossier d'association de malfaiteurs terroristes, cela suppose un projet. Nicolas Lebris développe sans emphase aucune ses deux principaux questionnements. Jawad Ben Daoud et Mohamed Souma pouvaient-ils ignorer que les deux fuyards avaient commis un crime? Et pour lui, la réponse est non. Mais pour autant, avaient-ils conscience de la nature du crime commis? La réponse, cette fois, est délicate, admet le magistrat. On a des mensonges, des éléments troublants, mais pas assez pour affirmer avec certitude qu'ils savaient apporter leur aide à des membres du commando. À vouloir mettre un costume trop grand à Jawad Ben Daoud, ajoute-t-il, on en viendrait à décrédibiliser Abaoud, considéré comme le cerveau des attentats. Pour le ministère public, le plus médiatique n'est d'ailleurs pas le plus inquiétant. Et son regard se pose sur Youssef Haïd Boulassem, qui comparaît libre au premier rang de la salle. De loin, le profil le plus inquiétant, indique le procureur. Le prévenu redresse la tête, ne le quitte plus des yeux. C'est le frère d'Asna, Haïd Boulassem, la jeune femme qui a joué les intermédiaires et trouvé la mort dans l'assaut du raid. Et comment, après les attentats, garder sous silence ces informations? Comment ne pas dénoncer cet homme qui a participé à un tel carnage? Là encore, le procureur livre un élément de réponse, la radicalisation de l'individu. Il cite des échanges entre le frère et la sœur. Le prévenu intervient, j'ai jamais dit ça. Rappel à l'ordre de la présidente et fin du réquisitoire, c'est vraiment le délit dans son acception le plus grave, raison pour laquelle il demande la peine la plus lourde, 5 ans d'emprisonnement et surtout un mandat de dépôt à l'audience, ce qui conduirait à envoyer le prévenu directement derrière les barreaux.
Florence Turmeau, Palais de Justice de Paris. Une femme sur 5 est victime de harcèlement sexuel au travail au cours de sa carrière. Face à l'ampleur du phénomène, le défenseur des droits lance une campagne de sensibilisation pour inciter les personnes concernées à faire valoir leurs droits et pour renforcer la prévention et les sanctions. Car aujourd'hui, Tara Schlegel, 94% des plaintes sont classées sans suite.
Oui, c'est décourageant. On renvoie devant les tribunaux souvent encombrés des faits d'agression sexuelle avérée plutôt que, entre guillemets, du simple harcèlement. Pourtant, les choses avancent en France. L'an dernier, en mai, une plainte est remontée jusqu'à la Cour de cassation qui a jugé qu'une femme pouvait être victime d'un fait de harcèlement unique, non répété. Donc, Marilyn Baldeck accompagne les femmes avec son association, la VFT.
Notre Cour suprême nous a dit, dans un de nos dossiers, que le harcèlement sexuel pouvait être caractérisé par un acte unique, y compris lorsque l'auteur n'a pas eu l'intention d'obtenir un acte de nature sexuelle, et y compris lorsqu'il n'a pas exercé de pression grave. Donc dans le cas d'espèce, c'était un directeur de colonie de vacances qui avait dit à une toute jeune femme à peine majeure qui était animatrice dans la colo, qui avait pris un coup de soleil, qu'elle pouvait le rejoindre dans sa chambre, qu'il lui étalerait de la crème, qu'ils dormiraient ensemble et que ça lui ferait du bien.
Une phrase donc seule a suffi selon cet arrêté qui fait désormais jurisprudence. Mais ce n'est pas tout. Autre avancée, en 2017, la cour d'appel d'Orléans, cette fois, a suivi une journaliste dont l'environnement professionnel était irrespirable.
Elle était exposée à des propos à caractère sexuel constant, des images pornographiques sur les économiseurs d'écran quand ses confrères partaient en reportage, des commentaires qui étaient systématiquement sexués sur les femmes et notamment sur ses consoeurs, qui, au total, lui était devenu totalement insupportable. Donc son employeur se défendait en disant que ses agissements ne lui étaient pas adressés et que donc elle ne pouvait pas s'en plaindre et que c'est d'elle dont venait le problème.
Alors les juges ont reconnu ici le premier cas de harcèlement environnemental, se réjouit encore Marilyn Baldeck. Les mentalités sont en train d'évoluer. C'était l'objet du colloque de ce matin, dire que les femmes peuvent agir, saisir notamment le défenseur des droits, Jacques Toubon, qui ensuite parfois diligente des enquêtes, comme ce fut le cas contre cette société de nettoyage.
On s'est aperçu que dans une de ces entreprises, qui est un grand groupe d'ailleurs industriel, qui travaillait sur les trains à la gare du Nord, il y avait depuis des années des comportements systématiques de harcèlement sexuel de la part d'un certain nombre d'hommes, de contremaîtres à l'égard de ces salariés femmes qui nettoient les trains.
En l'occurrence, l'enquête a permis aux défenseurs d'intervenir au procès, fait rare, et l'employeur a été lourdement condamné. Alors, une campagne d'affichage est lancée aujourd'hui avec des dépliants et un court-métrage.
C'était mon premier emploi.
Ça a commencé
dès l'entretien de recrutement,
pour que les femmes saisissent le défenseur des droits et fassent valoir leurs droits.
Merci, Tara Schlegel. Une faible mobilisation contre la réforme Parcoursup et celle du baccalauréat. Comme la semaine dernière, des étudiants et des enseignants ont manifesté aujourd'hui dans plusieurs villes de France. Ils étaient quelques milliers, 3000 à Paris, selon la police. Il faut dire que la météo n'était pas de leur côté. Bonsoir François-Pierre Noël.
Bonsoir.
Dans le cortège parisien, il y avait des étudiants venus soutenir les prochaines générations, des professeurs, mais surtout beaucoup de lycéens mécontents. Vous avez notamment rencontré Louis, en terminale ES à Villeneuve-le-Roi, et inquiète son avenir.
À bas la sélection ! À bas ! À bas ! À bas la sélection !
Aujourd'hui, on a un conseiller d'orientation pour 1500 élèves. Comment est-ce que vous voulez que l'élève se sente accompagné ? Demandez à n'importe quel lycéen, on est tous complètement perdus sur ce qu'on veut faire l'année prochaine.
Louis ne sait pas ce qu'il va faire après son année de terminale. Comme ses camarades, il a découvert Parcoursup il y a 3 semaines. Ce nouveau système d'inscription permet désormais aux universités de sélectionner les élèves qui vont intégrer leur filière. Et face à cette nouvelle plateforme, Louis est perdu.
Et sur Parcoursup, j'arrive, j'ai 80 facs qui me sont affichés, j'ai pas tous les attendus qui sont remontés, on est noyé dans un flot d'informations sans personne pour nous aider. Donc non, en fait, la sélection, encore une fois, c'est du tri social. On laisse les élèves seuls à eux-mêmes, seuls à leurs conditions, alors que c'est la responsabilité de l'État de s'occuper de toutes ces choses-là.
Solène aussi pense que l'État ne remplit pas son rôle d'aide aux lycéens avec Parcoursup. La plateforme risque, selon cet élève de terminale L, d'accentuer encore plus les inégalités entre les futurs étudiants.
On fait passer ça pour quelque chose qui va arranger les choses et pour quelque chose qui n'est pas sélectif. Alors qu'on sait très bien qu'aujourd'hui, en université, le bac ne sert plus justement à nous donner l'opportunité de, peu importe d'où on vient, peu importe nos notes, d'aller à l'université. Aujourd'hui, même à l'université, c'est compliqué d'y aller, alors que ça devrait représenter l'éducation pour tous.
Les terminales râlent, mais les lycéens en seconde sont aussi en colère. À la mi-février, le gouvernement dévoilera les contours du futur baccalauréat que l'on connaît en partie. Seulement 4 matières à l'examen final, plus un oral. Le reste de la note finale dépendra du contrôle continu. Et c'est là le problème qu'a Gabriel avec cette future réforme. Il est en seconde au lycée Colbert à Paris.
Le contrôle continu qui est ajouté au bac fasse que ça soit plus un diplôme national et que chaque lycée, donc, ça soit pas à la même égalité, en fait, parce que la notation des profs ou la dureté des exercices, enfin, voilà.
Ce futur bachelier a peur que son lycée soit désavantagé par rapport à d'autres, notamment lorsqu'il voudra entrer dans une université. Gabriel, comme tous les élèves de seconde, est concerné par la future réforme du bac, car elle entrera en vigueur dès la rentrée prochaine.
François-Pierre Noël, la Fédération Nationale du Bois appelle à l'aide le gouvernement. Alors que la France est le 3e producteur mondial de chêne, et alors que 25 à 30% du chêne récolté dans l'Hexagone part à l'étranger pour y être transformé, les scieries françaises manquent de matières premières. Bonsoir Marie Viennot.
Bonsoir.
La FNB s'inquiète pour l'avenir de la filière bois. Elle s'adresse aujourd'hui au gouvernement pour qu'il prenne les mesures nécessaires au maintien de la transformation du chêne en France.
Oui, cette transformation représente 26 000 emplois industriels, de la scierie aux fabricants de parquets, plans de travail ou meubles. Des emplois menacés par les exportations. En 10 ans, la part du chêne français exporté a été multiplié par 10, mais la production de chêne, elle, n'a pas suivi. Il faut 150 à 200 ans pour qu'un chêne arrive à maturité. C'est donc difficile d'être réactif. Et résultat, donc, les scieries françaises ont dû se contenter de moitié moins de matière, de chêne, donc, qui sert ensuite aux productions. La situation s'est encore aggravée lors des ventes de cet automne. La scierie que possède Samuel Deschaumes n'a plus que 4 mois de stock de chêne pour honorer ses commandes, alors qu'il y a des commandes.
Aujourd'hui, lorsqu'on a une vente publique, on se rend compte que 25 à 30% de la matière est achetée par des traders, des gens qui vont exporter du bois vers la Chine, alors qu'à côté, les scieries locales, nous manquons de matière. Et on arrive pour la première fois dans un pays où on a la chance d'avoir une richesse extraordinaire, cet or vert qui est le chêne français est connu dans le monde entier, et on peut arriver à ce que, faute de matière, on soit obligé à court terme de fermer nos entreprises. Il y a véritablement urgence.
Alors le problème n'est pas nouveau, mais il s'est aggravé quand la Chine a décidé de limiter ses prélèvements sur ses propres chênes il y a 2 ans. Selon la Fédération Nationale du Bois, 180 pays ont depuis interdit ou restreint leurs exportations de chênes, notamment l'Ukraine, l'Allemagne, la Croatie, mais pas la France. Alors l'ONF, l'Office National des Forêts, représente la moitié des ventes et privilégie, lui, la filière française, mais pas le privé. Alors l'État pourrait-il imposer aux forestiers privés de ne pas vendre plus aux francs? Oui, pour David Chavot de la FNB, ce serait une juste contrepartie.
Il faut un tout petit peu de contrepartie. La contrepartie, c'est que ça vienne dans des entreprises françaises. S'il y a des adeptes d'un modèle 100% libéral, c'est très bien. On va jouer dans le monde, mais on ne bénéficie pas de la manne de l'État.
C'est-à-dire d'aide
de l'État, d'exonération fiscale, etc. On cultive son bois et puis on va le vendre où on veut.
Alors la conditionnalité des aides, pas plus que le protectionnisme, ne guide la politique des gouvernements français. Mais qui sait, cela pourrait changer. Dernièrement, Bruno Le Maire, le ministre des Finances, a dit vouloir faire le tri dans les aides publiques au privé. Il y en a chaque année pour 100 milliards d'euros.
Marie Viano. La tension monte depuis quelques jours aux Maldives, menaçant la stabilité de la petite république de l'océan Indien. L'état d'urgence a été instauré hier et aujourd'hui, l'opposition en exil réclame une intervention internationale pour renverser l'actuel président qui, lui, crie à la conspiration, Valérie Crova.
Difficile de ne pas y voir un lien avec les derniers événements qui agitent les Maldives. La Cour suprême a décidé ce soir de revenir sur sa décision de libérer 9 figures de l'opposition dont les condamnations avaient été cassées la semaine dernière contre l'avis du président de l'archipel, réputé pour mener une politique de répression ciblée contre ses détracteurs. Ce matin, Abdoulaye Amine avait fait arrêter le président de la Cour et un autre magistrat pour corruption. Dans un discours télévisé, il s'est justifié en expliquant que les deux hommes cherchaient à le destituer. Le demi-frère du président Yamine, qui a dirigé le pays d'une main de fer pendant 30 ans, a lui aussi été arrêté. Il a rejoint récemment l'opposition, rassemblée autour de Mohamed Nachid, qui s'était fait connaître du grand public après avoir organisé une réunion de son gouvernement sous la mer pour alerter le monde sur les risques de disparition de l'archipel à cause du réchauffement climatique. Cet ancien président, qui a été contraint à la démission en 2012, vit au Royaume-Uni, où il a obtenu l'asile. Il a annoncé son intention de se représenter à l'élection présidentielle qui doit se tenir cette année. Face à la situation chaotique, Mohamed Nachid, qui dirige le Parti démocratique maldivien, a demandé à l'Inde d'intervenir militairement, ce que New Delhi a déjà fait en 1988 pour empêcher un coup d'État.
La répression continue au Kenya depuis la prestation de serment illégal de Raila Odinga la semaine dernière. L'opposant historique, qui revendique toujours être le véritable vainqueur de l'élection présidentielle d'août dernier, s'est autoproclamé président du peuple près de 3 mois après l'investiture d'Uhuru Kenyatta. Et depuis, on assiste à des arrestations de membres de l'opposition et des attaques à la liberté de la presse, Laure Brulard.
Les tensions se cristallisent autour de la détention de Miguna Miguna, un avocat proche de Raila Odinga. Aujourd'hui, il a été inculpé de trahison pour avoir participé à la prestation de serment de Raila Odinga. C'est le plus médiatique des 3 sympathisants de l'opposition arrêtés ces derniers jours, mais il est le seul à être encore entre les mains de la police, et ce malgré plusieurs arrêts de la haute cour demandant sa libération. Si la justice prouve une nouvelle fois son statut de contre-pouvoir au Kenya, les autorités semblent en faire peu de cas. Une grande chaîne de télévision privée a toujours son signal coupé, malgré un précédent arrêt de la haute cour demandant la reprise immédiate des programmes. Un gouvernement qui ne respecte pas la loi est appelé une dictature, non une démocratie. Nous sommes sur une mauvaise pente, s'inquiète Isaac Okero, président du barreau kényan. La communauté internationale, elle, reste prudente, dénonçant les méthodes du gouvernement tout en rappelant qu'Uhuru Kenyatta est le président élu du Kenya et que la prestation de serment de l'opposant va à l'encontre de la Constitution. Reste à savoir jusqu'où ira le gouvernement. Arrêter Raila Odinga serait une grave erreur politique, sur le plan diplomatique comme sur le plan sécuritaire, et cela reste improbable, estime une source au sein d'une ambassade, qui regrette que les différents appels au dialogue aient jusque-là échoué.
Laure Brulard à Nairobi. L'ONU réclame une trêve d'au moins 1 mois en Syrie, une demande visant à permettre l'acheminement de l'aide humanitaire. Alors que des bombardements aériens ont fait des dizaines de morts dans des zones rebelles près de Damas et dans le nord-ouest du pays, les Nations Unies veulent par ailleurs enquêter sur l'utilisation de chlore lors de bombardements de l'armée syrienne contre des civils à Sarakeb dans la province d'Idlib et à Douma dans la Ghouta orientale. Les marchés boursiers dans l'incertitude. La bourse de Paris a fini dans le rouge cet après-midi en baisse de 2,35%. Les marchés asiatiques et européens ont chuté aujourd'hui dans le sillage de la bourse de New York. Les investisseurs n'avaient pas connu de telles baisses depuis des années. Les explications de Pierre-Yves Dugas à Washington.
Ce matin, après 2 séances consécutives qui ont marqué la pire chute de Wall Street depuis la crise financière de 2008, le Dow Jones a d'abord plongé de 500 points. Avant de rebondir de 367 points, pour repartir ensuite dans le rouge, Wall Street redécouvre la signification d'un terme oublié depuis plus d'un an, la volatilité. L'euphorie qui a fait gagner plus de 20% au Dow Jones depuis un an reposait sur 3 piliers, l'anticipation de baisse d'impôts, une accélération de la croissance et le maintien d'un relèvement très graduel de taux par la Banque centrale américaine en raison de la faiblesse de l'inflation. Et depuis vendredi, ce contexte a changé. Les investisseurs ont peur que la Fed soit obligée de relever plus rapidement ses taux car l'inflation donne quelques signes de réveil. Par ailleurs, les baisses d'impôts ont déjà eu lieu et sont maintenant déjà reflétées dans les cours des actions. Le yo-yo de Wall Street aujourd'hui reflète la recherche d'un plancher. Ce plancher va être testé probablement pendant plusieurs séances, le temps que l'on y voit plus clair dans les fondamentaux, à savoir l'inflation aux États-Unis se réveille-t-elle vraiment ? La croissance forte et le plein emploi sont-ils alarmants aux yeux de la Banque centrale américaine ? Et enfin, les hausses de profits des entreprises sont-elles au rendez-vous ?
Météo France maintient 28 départements en vigilance orange à la neige et au verglas. La neige sera encore abondante demain, le ciel restera bien nuageux, les gelées seront généralisées demain matin. Les températures atteindront l'après-midi 0 à 3 degrés sur la moitié nord, 4 à 7 sur la Bretagne et le sud, 8 à 14 de la Provence à la Corse. Ce journal a été préparé avec François-Charles Domergue.